Merci d'écouter RFI. Bienvenue si vous nous rejoignez. Il est 9h à Port-au-Prince, 13h en temps universel et 15h à Paris. L'actualité du continent américain durant la prochaine demi-heure, actualité marquée en Haïti par le premier conseil des ministres du régime de transition et par les intempéries qui endeuillent le nord du pays. Inondation dramatique également au Brésil, mais la solidarité s'organise, nous le verrons avec notre correspondante. Notre dossier du jour au Chili, un peu plus de 4 ans après des mobilisations sociales majeures dans le pays, notre correspondante est allée rencontrer des victimes de la brutalité policière. Des centaines de personnes ont été blessées à un œil, voire ont carrément perdu la vue et aujourd'hui, elles se sentent très seules et mal prises en charge. Et puis comme chaque jour, l'actualité des Outre-mer, Benoît Ferrand. Les Martiniquais ont choisi leur destination favorite pour les vacances, ce sera la République dominicaine.
Autrement dit, le pays qui partage la grande île de Saint-Domingue avec Haïti. Rendez-vous tout à l'heure avec notre confrère Jean-Marc Dabreux pour en savoir un peu plus.
A tout à l'heure. Et pour le moment, on va faire le point sur l'actualité internationale. Voici le journal.
RFI Midi. Anne Contner.
Bonjour Gilles Moreau.
Bonjour.
L'insécurité domine la campagne électorale à moins d'un mois des élections générales au Mexique.
Oui, pour les seuls deux derniers jours, une vingtaine de cadavres ont été découverts dans les villes voisines de Morelos et de Fresnillo dans le nord du Mexique. Autant d'assassinats très probablement liés à la concurrence entre cartels de la drogue. Sans surprise, à Blajonaidi, le thème de la violence est au cœur de la campagne électorale.
Oui, ce que montrent ces derniers morts, c'est que la violence liée à la rivalité entre groupes criminels ne connaît pas de répit. Mais ce qu'on observe en plus cette année électorale, c'est qu'une certaine violence, celle qui s'exerce contre les candidats, gagne en ampleur. Moins d'un mois avant le scrutin national et local, au moins 30 candidats ont été assassinés cette année. Tous les partis sont concernés, un nombre croissant de régions sont touchées et la cible, c'est essentiellement des candidats locaux. Les groupes criminels cherchent non seulement à dominer les territoires, mais aussi à s'immiscer dans leur processus politique, leur méthode tuer, mais surtout menacer les candidats ainsi que leurs proches. Une manière de décider qui est autorisé à concourir. L'insécurité est au cœur des stratégies de campagne pour la présidentielle. Les trois candidats ont signé un document s'engageant à y répondre en priorité s'ils sont élus. En attendant, face à Claudia Sheinbaum, candidate du parti au pouvoir Morena, Xochitl Galvez de l'opposition ne s'est pas gênée pour tenter de capitaliser sur le mécontentement populaire sur un sujet, la sécurité, qui sera le thème de l'ultime débat télévisé des candidats le 19 mai prochain.
Et c'est le 2 juin qu'auront lieu les élections générales au Mexique à Blajonaidi. Merci.
En Argentine, c'est une journée de grève générale ce jeudi.
Oui, déjà la deuxième journée de grève générale depuis l'arrivée au pouvoir l'an dernier de l'ultralibéral Javier Milei. Les principales centrales syndicales du pays appellent aujourd'hui à débrayer pour protester contre la politique d'austérité du gouvernement et contre le train de réforme actuellement en discussion au Parlement. Correspondance à Buenos Aires de Théo Conscience.
Après la marche en défense de l'université publique qui a rassemblé près d'un million de personnes à travers tout le pays fin avril et les manifestations du 1er mai, la grève nationale de ce jeudi est la troisième mobilisation d'ampleur contre le gouvernement de Javier Milei en moins de 3 semaines. Elle répond à la dégradation de la situation sociale en Argentine. Le choc d'austérité décrété par le président argentin a plongé le pays dans la récession, avec une contraction de l'activité économique de 5,6% en février. Dans le même temps, les coupes drastiques dans les dépenses publiques et la perte de pouvoir d'achat des salaires face à l'inflation ont fait tomber plus de 3 millions d'Argentins dans la pauvreté, selon l'Université catholique argentine. Le mot d'ordre de cette grève, « les droits se défendent et la patrie n'est pas à vendre », traduit la volonté de faire pression sur les sénateurs qui examinent actuellement les réformes ultralibérales voulues par Javier Milei et approuvées par la Chambre des députés la semaine dernière. Elle prévoit notamment la délégation de pouvoir exceptionnel à l'exécutif pendant un an, la privatisation totale ou partielle de 11 entreprises publiques, une flexibilisation du droit du travail et une réforme fiscale. Théo Conscience, Buenos Aires, RFI.
Nos forces nucléaires stratégiques sont toujours prêtes au combat. L'avertissement est lancé par Vladimir Poutine en ce jour anniversaire en Russie de la victoire des Alliés en 1945. Sur fond de tensions internationales liées au conflit en Ukraine, Vladimir Poutine a prononcé son traditionnel discours du 9 mai. Dans un mois, le 9 juin, les électeurs d'une partie des 27 voteront aux élections européennes. C'est le cas de la France. À l'approche du vote, la plupart des Français expriment un sentiment négatif à l'égard guerre de l'Europe. Ils sont inquiets, en colère ou indifférents, même si une majorité de 59% se disent fiers d'être européens. Résultat d'un sondage IFOP pour Ouest-France. Les États-Unis restent les alliés d'Israël, mais changent le ton. Le président Biden a prévenu qu'il cesserait certaines livraisons d'armes à son allié en cas d'offensive contre Rafah. Cela étant, sur le long terme, le soutien américain à Israël n'est pas remis en cause. Harim Lipold.
Ce sont d'abord les médias qui ont publié l'information. Elle a été relayée ensuite par le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, et confirmée dans la soirée par le président lui-même pour être sûr qu'elle soit bien reçue en Israël. S'ils entrent à Rafah, je ne leur livrerai pas les armes qui ont toujours été utilisées contre des villes, a dit Joe Biden dans un entretien avec la chaîne CNN. Il s'agit d'une cargaison composée de 3500 bombes qui a été suspendue la semaine dernière. La moitié de ces bombes pèse presque une tonne. Et pour le président américain, il n'y a aucun doute, des civils ont été tués à Gaza à cause de ces bombes. Et Joe Biden d'ajouter, c'est mal. Le président américain a toutefois assuré que son pays continuerait à garantir la sécurité d'Israël, notamment à travers le système de défense aérienne Iron Dome. Avec ses déclarations, le chef de la Maison-Blanche s'adresse aussi à ses électeurs démocrates qui continuent à manifester contre le soutien de l'administration Biden à Israël. Avez-vous reçu le message véhiculé notamment sur les campus universitaires, a voulu savoir la journaliste de CNN. Réponse de Joe Biden. Absolument, j'ai entendu les messages.
Harim Lipold, à Gaza et selon l'ONU, quelques 80 000 personnes ont fui à Rafah depuis qu'Israël a durci ses opérations militaires le 6 mai. L'épidémie de choléra a fait un premier mort à Mayotte, département français de l'océan Indien. Un enfant de 3 ans a succombé. Les premiers cas à Mayotte ont été recensés mi-mars et chez des personnes revenant des Comores voisines où l'épidémie flambe.
À la page économique, le timide rebond des exportations chinoises.
Oui, des exportations en légère augmentation le mois dernier, 1,5% en tendance annuelle. C'est un résultat légèrement supérieur aux prévisions et la tendance est la même pour les importations. Autant de signes Agnieszka Kumor qui vont dans le sens de la reprise espérée de l'économie chinoise.
Cette légère hausse des exportations se combine avec une augmentation de 8,4% des importations. Quant à l'excédent commercial de la deuxième économie mondiale, il se chiffre à 72,4 milliards de dollars en avril. Toutefois, la reprise économique du géant asiatique, tant espérée après la pandémie du Covid, bute encore sur une conjoncture incertaine. Les Chinois limitent leurs dépenses alors que la crise immobilière et le chômage des jeunes pèsent sur leur pouvoir d'achat. Les problèmes se situent aussi ailleurs. La menace de la récession en Europe a contribué à affaiblir la demande internationale en produits chinois. Les tensions géopolitiques avec les États-Unis et la tendance de certains pays occidentaux à réduire leur dépendance vis-à-vis de Pékin pèsent sur le commerce extérieur chinois. Au profit de la Corée du Sud et de Taïwan qui signalent, eux, des niveaux records de leurs expéditions, notamment vers les États-Unis.
Éclairage sur l'économie chinoise, signé Agnieszka Kumor du service économique de la rédaction. Au lendemain de l'arrivée en France de la flamme olympique, place aux éclaireurs qui ont commencé à sillonner Marseille aujourd'hui. Basile Boli, légende du football marseillais, a été le premier ce matin à porter la torche. Avec Paris, Marseille est la seule ville française traversée une journée entière par le relais de la flamme olympique. En football, enfin, Dortmund contre le Real Madrid. C'est l'affiche inédite de la finale de la Ligue des Champions, le 1er juin au stade londonien de Wembley. En demi-finale retour hier soir, le Real a retourné la situation in extremis pour s'imposer 2-1 contre le Bayern de Munich. Et cette fois en Ligue Europa, Marseille n'est qu'un match d'une sixième finale européenne. Mais pour cela, les Marseillais devront gagner ce soir en Italie sur le terrain de l'Atalanta Bergame. La demi-finale allée au Vélodrome s'est soldée en effet par un match nul un partout. Voilà Atalanta. OM Anne à suivre en intégralité et en direct ce soir sur RFI.
À partir de 19h, temps universel. Mais pour l'instant, on va parler de l'actualité du continent américain. Merci Gilles Moreau.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
Et nous allons en Haïti où nous attend notre confrère Franz Duval, rédacteur en chef du quotidien Le Nouvelliste. Bonjour.
Bonjour Anne.
Nous parlons avec vous, comme chaque jeudi, de l'actualité dans votre pays. Et ce qui s'affiche en une ce matin, c'est ce premier conseil des ministres qui a eu lieu hier.
Tout à fait. C'est la première fois que le Conseil présidentiel de transition et le Conseil des ministres démissionnaires se sont rencontrés. C'est une réunion qui a eu lieu, c'est un Conseil des ministres. Et cette réunion était très attendue car cela marque vraiment la prise du pouvoir par le Conseil présidentiel de transition. Les ministres sont encore en poste et des décisions sont sorties de ce Conseil. On a changé de ministre de l'Intérieur, c'est Ariel Henry qui a assuré ce poste jusqu'à présent. Il y a un nouveau ministre de l'Intérieur qui a été choisi parmi les ministres intérimaires. On a décidé aussi de prolonger l'état d'urgence. Il y aura peut-être reprise bientôt du couvre-feu sur la région métropolitaine de Port-au-Prince. Il y a eu des décisions administratives concernant la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, un organe important dans le contrôle des dépenses publiques, et d'autres décisions qui vont permettre à la machine administrative de l'État de mieux fonctionner dans les jours qui viennent en attendant qu'on choisisse un nouveau premier ministre, un nouveau gouvernement et qu'on parte pour une nouvelle équipe totalement renouvelée.
Franz, vous nous le disiez, il a été décidé de prolonger l'état d'urgence. Il y aura aussi peut-être bientôt un couvre-feu dans la capitale et dans ses environs. La sécurité, c'est la priorité du gouvernement de transition. Tous les jours, les gangs terrorisent la population. On peut lire par exemple dans la presse aujourd'hui qu'une policière a été tuée hier alors qu'elle accompagnait un enfant à l'école au centre-ville de Port-au-Prince. Elle a tenté d'empêcher un enlèvement. C'est la 17e membre de la police tuée depuis le début de l'année. C'est dans ce contexte donc que s'est tenu le Conseil des ministres hier, alors aussi que la confusion, les contestations entourent le mode de fonctionnement de ce Conseil. Mais on peut lire, Franz, dans l'éditorial du Nouvelliste aujourd'hui, qu'on aime ou pas le CPT, le Conseil présidentiel de transition, il est notre solution de rechange en dehors de toute autre crise.
Pour le moment, c'est la solution la moins compliquée, c'est la solution qui est en place. Il faut dire que la classe politique dans son entièreté quasiment est représentée dans ce conseil, les forces économiques aussi, la société civile également. Tout ce bon monde n'avait pas l'habitude de travailler ensemble, les objectifs ne sont pas les mêmes, les priorités ne sont pas les mêmes, les principes ne sont pas les mêmes pour les membres de ce conseil, alors il essaie de s'acclimater en quelque sorte. Il y a eu beaucoup de troubles jusqu'à hier, on peut dire, et c'est pourquoi le Conseil des ministres n'avait pas encore eu lieu. Là maintenant, ils se sont entendus sur une présidente tournante, c'est encore une fois une nouveauté pour Haïti. On aura dans les 20 mois qui viennent 4 personnes à se succéder à la tête de l'État haïtien et qui sera à la tête de ce conseil. On est en train d'ajuster tout ça, mais le Nouvelliste est convaincu que pour le moment, il n'y a pas d'autre solution. Et même pour la sécurité, le conseil a fini par comprendre qu'il fallait faire appel à la mission multinationale. Il y a une lettre qui a été rédigée qui sera acheminée au président kenyan et dans les heures qui viennent, parce que le Conseil hésitait, certains étaient gênés par cet appel aux forces internationales, mais ils ont fini par comprendre, en rencontrant la police et en rencontrant les forces armées, qu'il n'y a pas de capacité haïtienne pour contrôler, réduire, encore moins résoudre les problèmes de sécurité dans le pays. Et tout ça, c'est les 2 mois qui viennent de s'écouler qui ont permis au Conseil, à ses membres, de comprendre la difficulté de la situation.
Franz, l'actualité haïtienne, elle est aussi marquée par les intempéries qui endeuillent le nord du pays. Je vous propose d'écouter le maire de Cap-Haïtien, où l'on déplore déjà 12 victimes. Il appelle la population à prendre des précautions.
Les personnes qui habitent dans des zones vulnérables, inondables, on a des abris provisoires, on leur demande que ces personnes soient déplacées parce que si la pluie continue, ce serait vraiment difficile pour eux. Dès qu'il pleut, même si c'est 2 minutes, il y aura l'inondation si les canaux ne sont pas curés. Le TPTC, une institution chargée pour faire le curage, il y a seulement 1 million de gouttes pour le département parce que cette structure ne concerne pas seulement la commune du Cap. On en a parlé avec quelques membres du conseil présidentiel, surtout il y a 2 qui viennent du nord et au du Cap. On va voir comment augmenter le budget du TPTC pour la région du Nord.
Voilà le maire adjoint de Cap-Haïtien. Les intempéries, les inondations concernent le nord du pays et les dégâts sont très importants, Franz.
Oui, les dégâts sont importants. 12 de morts, plus de 2000 maisons qui ont été inondées. Mais il faut dire que c'est une grande inquiétude pour Haïti tout entière, pas seulement pour la région du Nord. On s'achemine vers le début de la saison cyclonique. Et on s'achemine vers cette saison cyclonique qui arrive à partir du 1er juin avec des villes où les canaux de drainage n'ont pas été curés depuis des mois parce que l'État était quasiment en cessation d'activité depuis des mois. Il n'y a pas de budget vraiment disponible dans les villes de province pour faire ce genre de travaux. Et malheureusement, il y a des habitats précaires, des maisons qui ont été construites dans des zones où il ne fallait pas. Et à la moindre averse, comme vient de le dire le maire, on peut se retrouver avec une catastrophe. C'est valable pour le Cap-Haïtien, pour le Nord en général, mais en réalité, c'est valable pour beaucoup d'autres régions d'Haïti, y compris dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Il y a grand danger pour les mois qui viennent avec les risques d'inondation et de glissement de terrain.
Merci Franz Duval, rédacteur en chef du journal Le Nouvelliste. On vous retrouvera la semaine prochaine. Comme tous les jeudis, les très fortes pluies et la montée des eaux, elles sèment aussi la désolation en Amérique du Sud, notamment au Brésil, où l'on assiste à des inondations sans précédent. Une centaine de personnes a trouvé la mort et le bilan risque de s'alourdir car il y a encore des disparus. Et plus de 160 000 personnes sont aujourd'hui sans abri après avoir dû fuir leur maison. Face à l'ampleur du désastre, les associations se mobilisent et la solidarité s'organise. Reportage, Sarah Cozzolino.
Ils sont plus d'une centaine à s'activer dans le parc du Jockey Club de Rio, devenu l'un des centres de collecte de dons.
On se sentait mal d'être ici, impuissant, alors on a commencé cette mobilisation qui a pris une grande ampleur.
Carolina coordonne le tri des vêtements qui arrivent, mais la priorité est à l'eau potable, rappelle Mahara, originaire de Porto Alegre, et sa voix tremble quand elle pense à ses proches.
Ma famille entière est là-bas, ils n'ont pas d'eau ni d'électricité. Je préfère aider ici plutôt que de rester à la maison et voir les infos. Si c'est possible, j'irai là-bas à la fin du mois.
À cause des inondations, l'aéroport est fermé jusqu'à la fin du mois. Anna est bloquée à Rio et bénévole jusqu'à nouvel ordre.
L'important est de ne pas laisser la cause mourir en 2 semaines, parce qu'il ne s'agit pas d'un problème éphémère. La tragédie va durer et nous avons besoin que le Brésil reste uni.
Fernando est architecte et pense déjà à ce qu'il pourra faire au long terme pour son État.
Notre idée est de collecter du matériel de construction afin de pouvoir participer à la prochaine étape qui est la reconstruction de la région. Construire des maisons, des écoles, des refuges, tout ce qui est nécessaire au Rio Grande do Sul.
Pour l'heure, les alertes inondations sont à nouveau déclenchées avec le retour de la pluie prévue jusqu'à la fin de la semaine. Sarah Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI.
Et ces inondations, elles sont à la une de la presse que vous avez lue pour nous, Christophe Paget. Les journaux brésiliens reviennent tous sur la situation catastrophique dans le sud du pays.
Oui, O Globo rappelle que l'inondation a déjà dépassé les records de la tragédie vécue en 1941 au même endroit. La principale différence, explique un hydrologue interrogé par le journal, c'est que cette fois, tout s'est passé beaucoup plus vite. L'escalade a été surréaliste. Et puis, dans le passé, la population était moins nombreuse et n'occupait pas encore les zones à risque, comme c'est le cas aujourd'hui. On atteint donc les 100 victimes sur fond de pénurie de nourriture et d'eau et de crainte de nouvelles tempêtes, titre Folha de São Paulo. Le quotidien s'est rendu à Canoas, où, avec la moitié de son territoire envahi par les eaux, la municipalité compte jusqu'à 1 000 000 de personnes dans les files d'attente à la recherche de vivres distribués par la mairie. Mais il n'y en a pas pour tout le monde. « Nous avons besoin de beaucoup de dons », explique le maire. O Globo s'intéresse de son côté aux milliers d'habitants de la capitale qui ont trouvé refuge dans les stations balnéaires de la côte du Rio Grande do Sul. À Porto Alegre, nous n'avions plus d'eau potable, même pas pour laver le linge ou tirer la chasse d'eau, explique une déplacée. Hier, le retour de la pluie et des vents forts dans la région de Porto Alegre a poussé le gouvernement de la ville à suspendre les opérations de sauvetage, précise Folia. Et notre correspondante Sarah Codomino le disait, la protection civile se prépare à de nouvelles pluies ce vendredi qui toucheront précisément les régions les plus endommagées de l'État, se désole le quotidien. Les tempêtes devraient être presque aussi fortes que celles de la semaine dernière.
RFI, la radio del mundo.
En Argentine, c'est la nouvelle grève générale prévue aujourd'hui qui fait les gros titres, Christophe. Une nouvelle journée de mobilisation contre le programme d'austérité du président libertarien Javier Milei.
Oui, une grève lancée par la CGT qui estime la capitale en une, promet de paralyser le pays. Il n'y aura ni transport, ni cours, pas de fonctionnaires dans l'administration publique. Les banques resteront fermées, pas d'activité dans les entreprises. De fait, explique La Nación, l'adhésion totale des syndicats du transport garantit un niveau de blocage très important. La CGT table sur la plus grande grève de ces 20 dernières années. Une grève minimisée par le gouvernement, qui s'efforce de souligner qu'elle ne modifie en rien le programme économique écrit par Ina Doce. Le président Milei s'est d'ailleurs affiché sur Instagram à quelques heures de la grève, rapporte Rio Negro, sur une photo le montrant un t-shirt entre les mains, sur lequel on peut lire « Yo no paro », moi je ne fais pas la grève ». Ça, Anne, c'est la position officielle, mais en privé, écrit Parina Dothé, on s'inquiète de la pression que cette grève pourrait exercer sur les sénateurs en plein débat sur la loi sur les bases, le paquet de réformes dérégulatrices déjà adopté par les députés. Et au Sénat, les chiffres sont très serrés entre les pour et les contre.
Christophe Paget, vous restez avec nous. On vous retrouve dans quelques minutes pour feuilleter la presse aux États-Unis, juste après un détour par le Chili.
RFI, les voix du monde.
Notre dossier du jour nous emmène donc au Chili, 4 ans et demi après une crise sociale majeure. Plusieurs semaines de grandes manifestations pour réclamer de meilleures conditions de vie dans tout le pays et des violences, débordements contre brutalité des forces de l'ordre. 34 personnes avaient trouvé la mort à la fin de l'année 2019. Plus de 3500 avaient été blessés, sans doute plus. Et parmi ces blessés, plusieurs centaines ont perdu la vue ou ont été touchés aux yeux à cause des tirs de flashball des policiers. Aujourd'hui, ces blessés sont souvent très seuls à espérer réparation et à tenter de s'adapter à leur nouvelle vie. Reportage, Naïla de Rouanet.
Plus de 450 personnes ont partiellement ou totalement perdu la vue en l'espace de quelques semaines. Un chiffre inédit, comme l'explique Patricio Bustamante, professeur et académicien à la faculté de médecine de l'Université du Chili.
Il y a eu quelques comparaisons avec le conflit entre Israël et les Palestiniens, mais il n'y a pas dans la littérature scientifique d'autres cas avec autant de victimes de traumatismes oculaires et dans un laps de temps si court.
Son collègue, Joaquin Varas, professeur assistant dans la même université, ajoute que 80% des victimes étudiées dans le cadre de leur enquête présentent une cécité totale de leur œil affecté.
Ça veut dire passer de la vision en 3D à la 2D, comme si on regardait un dessin. Il y a des personnes qui, face à cette difficulté, ont eu des problèmes pour continuer leurs études ou poursuivre leur travail. Certaines ont dû changer de profession.
C'est le cas de Natalia Ravena, 29 ans. Elle était dans une manifestation lorsqu'elle a reçu une bombe lacrymogène en plein visage. Elle a perdu son œil droit et depuis, tout a changé pour cette infirmière de profession.
Je m'occupais de patients en psychiatrie et puis j'ai perdu confiance en moi car en psychiatrie, il y a toujours le risque qu'un patient en crise vous agresse. Et avec un seul œil, j'ai senti que ça pouvait me mettre en danger. J'ai donc arrêté et aujourd'hui, je passe des commandes pour des fournitures médicales. C'est un travail de bureau.
Mais c'est aussi dans les petites choses simples de la vie quotidienne que tout a changé.
Remplir un verre d'eau, c'est devenu compliqué. J'ai dû réapprendre à me déplacer dans l'espace car je me cognais partout. Me déplacer dans la rue aussi car je me sentais en danger. Je pensais que j'allais recevoir un coup dans l'œil. Chaque bruit un peu fort me faisait sursauter.
Et puis, elle est aussi passée par des moments très durs.
J'ai eu du stress post-traumatique. Il y a peu, j'ai fait une dépression. J'ai des crises d'angoisse. Et puis, mon visage a changé aussi. L'image qu'il me renvoie a changé. J'ai dû m'habituer à ma prothèse.
En plus de tout ça, Natalia se sent aujourd'hui abandonnée par l'État. Car même s'il y a eu des programmes pour venir en aide aux victimes, ils sont insuffisants. Pas assez de personnel, turnover des médecins, manque de suivi et d'accompagnement psychologique et social. Alors comme beaucoup, la jeune femme a décidé de se débrouiller seule, mais avec de lourdes conséquences financières.
La chirurgie, les consultations ophtalmologiques, le psychiatre, ça a été des dépenses supplémentaires, les médicaments aussi. Ça n'était pas pris en compte dans le programme et donc pour beaucoup, ça s'est traduit par des pertes économiques importantes.
Et après 4 années d'enquête, Natalia n'a pas non plus obtenu réparation auprès de la justice. L'investigation avance très lentement.
Les institutions nous mettent des bâtons dans les roues, surtout la police.
Alejandra Arriaza est avocate, défenseure des droits de l'homme. Elle représente plusieurs victimes de traumas oculaires.
Les carabiniers n'ont pas transmis leurs caméras embarquées. Des vidéos ont été trafiquées, des preuves ont aussi été détruites. Ils ont tout fait pour entraver l'enquête. Et de son côté, le ministère public n'a pas non plus accordé l'importance requise à toutes ces affaires.
Selon l'avocate, seuls 5% des victimes ont pu obtenir un semblant de réparation. Une détresse et un abandon si fort pour certains que c'en est devenu insupportable. En 4 ans, 4 victimes de traumas oculaires se sont ôtées la vie. Naïla de Rouanet, Santiago, RFI.
À Santiago, il est 9h24.
RFI, The World's Voices.
Le changement climatique a aussi des conséquences matérielles, moins graves heureusement que celles que nous évoquions tout à l'heure au Brésil notamment, mais des dégâts matériels aux États-Unis. Christophe Paget, on apprend dans la presse aujourd'hui que le réchauffement menace l'autoroute numéro 1.
Oui, l'autoroute numéro 1, la Highway 1, longe l'océan Pacifique sur 900 km et elle fait ce jeudi la une du Washington Post. Car si certaines portions de la Highway 1 sont régulièrement enterrées par des glissements de terrain, certains, écrit le journal, estiment qu'aujourd'hui la situation empire, entre autres à cause du changement climatique. Les tempêtes sont plus humides et s'infiltrent dans la roche poreuse qu'elles affaiblissent. Les feux de forêt laissent derrière eux des débris supplémentaires que les eaux de crue emportent vers le bas sur la route. Enfin, les vagues provoquées par des tempêtes plus violentes et la montée des eaux rongent les falaises par en dessous. Et malgré les travaux constants d'entretien qui coûtent une fortune, une géologue estime qu'à un moment, les communautés qui se trouvent régulièrement isolées par ces problèmes sur la route vont peut-être devoir réfléchir à déménager. Toujours dans le Washington Post, Anne, un autre article sur les ravages du changement climatique, mais à l'échelle planétaire. Le quotidien se fait l'écho d'une étude selon laquelle le changement climatique augmente les risques de nouvelles pandémies. Un monde plus chaud d'écosystèmes ravagés est plus accueillant pour nombre de parasites, mais moins pour l'homme et d'autres formes de vie. Bref, Anne, on va dire que ça va comme un jeudi.
Christophe Paget, comme tous les jours et donc comme tous les jeudis, on va parler de l'actualité des Outre-mer avant de vous retrouver pour un dernier coup d'œil à la presse américaine.
Le journal de l'Outre-mer.
Benoît Ferrand, les Martiniquais ont choisi leur destination favorite pour ce que l'on appelle les grandes vacances. Ce sera la République dominicaine.
Autrement dit, le pays qui partage la grande île de Saint-Domingue, l'ancienne Hispaniola, avec Haïti.
Je me souvenais plus de ta blague.
Stop. RFI, on n'a plus votre tour.
Petit problème technique. Gros problème technique, puisqu'on a perdu Benoît Ferrand. On va donc vous retrouver, Christophe Paget, puisqu'on vous avait promis donc un dernier coup d'œil à la presse américaine. Christophe, on va parler avec vous d'un homme dont le nom ne vous dira peut-être pas grand-chose, à vous qui nous écoutez. D'ailleurs, je dois admettre que moi, je ne le connaissais pas du tout. En revanche, de nombreuses chansons auxquelles il a contribué sont, elles, très connues et parfois dans le monde entier.
Oui, il s'agit de Steve Albini, le producteur et musicien américain, est mort ce mardi à l'âge de 61 ans. C'était une légende du rock alternatif, une icône du rock underground, comme écrit le site Pitchfork, et un critique acerbe aussi des pratiques de l'industrie musicale. Le magazine Rolling Stone rappelle qu'il a produit des albums de Nirvana, des Pixies, des Breeders ou encore de PJ Harvey, avec un son qui charriait une énergie brute. En tête de ses 10 enregistrements les plus remarquables, le New York Times place Where is My Man des Pixies, utilisé d'ailleurs dans de nombreux films. Et bien, Where is My Man, c'est ce qu'on est en train d'écouter.
Yeah.
Et c'est avec les Pixies que se termine RFI Midi, réalisé aujourd'hui par Stéphane Desfossés. Restez à l'écoute sur RFI tout de suite, de vive voix, rediffusion d'une émission en hommage à Henri Gougaud, écrivain, conteur qui avait redonné ses lettres de noblesse à l'oralité. Il est décédé hier à 88 ans et Pascal Paradou vous propose de l'entendre, de le réécouter, parler de son travail.